vous pouvez mettre en cage le chanteur, mais pas la chanson. Harry Belafonte.
La première, 11h30-13h, entrée sans frapper.
Il est 12h05, c'est entrée sans frapper, bagarre dans la discothèque est finie. Maintenant, place aux affaires, comme on dit. Il y a Evians, il y a Marie-Agnès Baupin, il y a Sébastien Ministru. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jérôme, bonjour.
Aujourd'hui c'est parole, parole et événement, vous venez avec une bonne chanson.
De la semaine dernière aussi, c'était une bonne chanson. Et la semaine d'avant aussi. Une chanson, très bonne chanson, qui porte bien son titre. Une pièce maîtresse hein, dans l'anthologie de la chanson française. Une des chansons que je considère comme les mieux écrites au monde. Ma plus belle histoire d'amour, Barbara.
Ah, est-ce son public? Est-ce pas son public? Oui, c'est son public. Mais plein d'autres choses. Et je rigolais, hein, c'est chaque fois bien, hein, Sébastien.
Si ça te plaît pas, c'est le même prix.
Éric Cresson, avec vous, ce sera les plateformes et sorties ciné.
Alors, surtout deux coups de cœur au cinéma. Il faut aller au cinéma, voir les films sur des grands écrans. Et voilà, et un événement en plateforme qui n'est pas vraiment un coup de cœur, mais un événement.
Ok, c'est quoi vos coups de cœur cinéma?
Ah, vous voulez savoir maintenant?
Oui.
Parce que vous allez faire un concours.
Oui.
Il y a Rosalie de Stéphanie Di Giusto et il y a Civil War.
C'est bien parce que Rosalie, on offre des places dans quelques instants. Bouli Lanner, c'est Thomas VDB, sont nos invités aujourd'hui dans Entrée sans frapper pour une affaire de principe. Film qui retrace hein, le combat de l'eurodéputé José Bové. Film porté à l'écran par Antoine Rimbaud. Donc, Bouli Lanner et Thomas VDB sont nos invités dans Entrée sans frapper.
La première, les paroles. 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux.
On l'écoutera en entier à la fin.
Non, on écoute tout maintenant.
C'est vraiment
une des plus belles chansons du monde dont on va parler maintenant. Hein.
Dans l'immense...
Ma plus belle histoire d'amour.
L'immense répertoire de Barbara, l'immense dans les deux sens du terme. Il y a beaucoup, mm-hmm. C'est immense parce que c'est grand. Bah, c'est clairement la chanson la plus connue, avec peut-être L'Aigle Noir mm-hmm. et Göttingen. Ma plus belle histoire d'amour, dont le texte frôle la perfection, est un classique, un titre d'anthologie. C'est une des chansons les mieux écrites de Barbara. Personnellement, je l'ai souvent dit, c'est dans cette chanson que j'ai appris à bien parler le français, si j'y suis arrivé, et que j'ai eu envie aussi de savoir bien l'écrire. Ma plus belle histoire d'amour est sortie en 1967. C'est une chanson confession, c'est une chanson fleuve, c'est la chanson de toute une vie à attendre un amour, à attendre un rendez-vous avec cet amour. Et si l'on en croit la narratrice de la chanson, cette attente a toujours été là. Elle en a en tout cas le souvenir. Elle avoue d'emblée, vous venez de l'entendre, du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fût, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis je dis je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. D'emblée, évidemment, par automatisme et par romantisme, on pense que le personnage s'adresse à un homme. Par automatisme et par la volonté aussi de Barbara, qui s'amuse à nous mener en bateau, puisque en l'écoutant, il s'agit toujours d'évoquer le souvenir d'un homme qui, dans la galerie des amours, reste celui qu'il faut retrouver. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous, déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et je poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et ça continue, et ça continue, et ça continue ainsi, jusqu'à ce qu'on devine une double lecture des paroles. Si Barbara parle d'un homme, d'un amour, elle parle aussi d'un autre amour, celui qu'il lui a offert, qui lui a offert sa plus belle histoire, celui du public. Ma plus belle histoire d'amour est une chanson autobiographique sur le chemin difficile et accidenté qui mènera Barbara de l'ombre à la lumière, de la solitude aux salles pleines. Mmh. Elle évoque d'ailleurs dans la chanson les moments difficiles des débuts où ça ne marche pas, où le succès ne vient pas. Elle évoque le découragement et la colère. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas par jure si ce soir je vous jure que pour vous,
je l'ai faite à genoux.
Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous, perdant courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous.
C'est un cri. Hein.
Et puis ça marche. Ouais. L'homme qui est devenu le public, l'amour qui a les traits du public, et là.
C'était un soir en septembre.
Ce fut un soir en septembre. Vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous. Vous étiez venu au rendez-vous. Je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie. Quand elle dit ça, évidemment, c'est une adresse au public de la salle à qui elle rappelle qu'il est venu au rendez-vous un soir en septembre. Et de fait, quand on cherche, on trouve. Le premier grand triomphe de Barbara en concert a eu lieu un soir, en septembre.
Alors vraiment ?
C'est vraiment vrai. C'est le 16 septembre 1965, lors d'une première à Bobino. Cet inouï moment de rendez-vous qui lui inspirera la chanson, cette rencontre avec le public qu'elle décrit dans ses mémoires comme, je cite, « cette soirée qui avait été l'une de mes plus belles nuits d'amour ». De quel compare ce récital à une nuit d'amour. Plus de doute, hein, évidemment, la personne à laquelle elle s'adresse dans la chanson aurait pu être un homme, mais c'est le public, sachant que l'amour du deuxième vaut plus que l'amour du premier. Il y a dans la chanson deux dates, non pas deux dates, deux éléments de temps qui semblent prouver que le texte évoque deux moments initiatiques, donc deux moments très importants dans la trajectoire de l'artiste. Le soir en septembre, donc scène initiatique où elle se fait littéralement bouffer, gober par l'amour du public. Mais il y a aussi au début de la chanson cette référence, on l'a déjà entendue, à l'âge. Lors, j'avais 15 ans à peine. Et moi, ça me chipotait, cette histoire de 15 ans, parce que j'ai souvent entendu Barbara parler des 15 ans. Et quand on enquête un petit peu, on découvre que 15 ans, c'est un autre grand moment initiatique pour l'artiste. 15 ans, c'est le début du chemin de l'artiste. À la page 45 de ses mémoires inachevées, on peut lire ceci. Je viens d'avoir 15 ans, l'âge autorisé pour prendre des cours de chant. C'est donc à 15 ans qu'elle décide que la chanson sera sa vie. C'est à 15 ans, la chanson est tout à fait correcte sur les dates qui coïncident, c'est à 15 ans qu'elle prend la route en solitaire vers nous. Elle ajoute toujours dans son livre de souvenirs, « Je commence toute seule ma vie de femme qui chante ». Cet âge, 15 ans, s'il est capital dans le décryptage des paroles de ma plus belle histoire d'amour, est un motif, je vous le disais, qui revient assez régulièrement dans les chansons de Barbara. C'est étrange, mais c'est comme ça. Il y a d'autres chansons où elle évoque cet âge de 15 ans.
Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement.
Oh, il y a nos 15 ans qui s'affolent au bois de Saint-Amand. Chanson printanière qui sent bon le souvenir et la jonquille et qui date de 1964. Alors c'est marrant parce que les 15 ans reviennent encore dans une autre chanson de Barbara.
Oh, mes 15 ans, mes merveilles, que j'aime mal d'être revenue. Les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés.
Ça, vous avez remarqué.
Oh, mes 15 ans, oh, mes merveilles, dans mon enfance. Chanson de 1968 qui est assez jolie, on va dire. Toujours cette obsession de ces 15 ans dont le souvenir ne semble pas quitter Barbara, qui chante encore et toujours les 15 ans dans d'autres chansons.
À pas de loup et déjà sans peur du loup. À 15 ans, je trottinais.
C'est dingue.
À 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, je trottinais. C'est dans cette chanson qui s'appelle Hop là, en 1970, sur l'album L'Aigle Noir. Et donc, si à mon avis, on cherchait bien, on devrait ailleurs, dans l'immense répertoire de Barbara, trouver peut-être d'autres références à ces 15 ans, qui sont donc le moment où a commencé la longue route qui menait jusqu'à nous et qui traverse toute la chanson, ma plus belle histoire d'amour.
Oh, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est signé Barbara, Thomas VDB, Bouli Lanner sur les invités d'Entrer sans frapper, là, tout de suite, après la sublime Barbara.
À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Je tenais à vous le dire, ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Ma plus belle histoire d'amour, c'était Barbara.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Ça va pas être facile, je vous préviens. Il est 12h20, nos invités sont Thomas VDB. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour les amis.
Alors évidemment, on vous connaît notamment de vos différents spectacles en tant qu'acteur. Maintenant, votre présence aussi sur France Inter chez Nos Copains. Bouli Lanners, bonjour. Vous êtes Bouli Lanners. Voilà, ça c'est plus vite fait. Vous allez bien Bouli?
Ça va et vous?
Vous êtes tous les deux à l'affiche d'un film. Il s'appelle Une affaire. De principe, réalisé par Antoine Rimbaud, bande-annonce.
Commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac.
My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry.
Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier.
Qui êtes-vous, monsieur?
José Beauvais.
Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires?
Oui.
S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi.
Oui.
Si vous voulez voir un film où Bouli Lanners fait quelques scènes en anglais, ce film est pour vous.
Yes, it is. Yes, yes.
Very, very beautiful very accent, nice, Bouli. Yeah. Donc, c'est une histoire vraie, c'est tiré dans les chapitres d'un livre que José Beauvais a fait après sa carrière de parlementaire ici à Bruxelles, sur une histoire bien particulière. Cette histoire, elle se passe en gros entre 2010 et 2012. Il y a un homme qui s'appelle John Daly, qui est un homme politique plutôt conservateur en plus. Il est maltais, à ce moment-là, il est commissaire à la santé à Bruxelles, et c'est au moment où on parle beaucoup du tabac, puisque la commission aimerait supprimer les marques sur les paquets de cigarettes. Ça a été fait depuis, pour les remplacer non seulement par un paquet sans marque et donc sans marketing, et en plus avec des images qui sont dissuasives. Bien évidemment, ça ne plaît pas au lobby du tabac. Et ce John Daly va en fait être descendu par Barroso, il va être obligé de se résigner finalement, et l'OLAF, qui est l'espèce de centrale, mais vous allez nous expliquer ça, parce que les arcanes de la commission, c'est pas rien, va un petit peu incriminer cet homme qui est peut-être, là il faudra voir le film, absolument innocent et manipulé par divers lobbies de cigarettiers, avec notamment la Suède et Malte en ligne de mire.
Mais hyper bien résumé le film là. Non, parce que vous avez dit vous allez nous expliquer ça, mais en fait on ne l'aurait pas aussi bien expliqué.
Et ça nous arrange très bien. Et ça nous arrange très bien.
Ah, vous venez de comprendre le film.
En fait, j'ai vu que vous n'aviez pas tout compris.
Les arcanes, on a toujours rien compris. Nous, je me dis.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que José Beauvais, qui est pourtant un opposant politique
à John Daly,
va quand même s'émouvoir de l'état de droit au sein de la commission et décider de se battre et d'enquêter au sein de la commission pour comprendre ce qui se passe. Et là, il va faire la différence entre le droit et la justice, et c'est là évidemment qu'on tombe de haut moralement. Alors effectivement, c'est pas sexy comme sujet, c'est difficile comme sujet, porter la commission au cinéma. C'est pas beau, les couloirs de la commission. Mais en même temps, on a envie de pousser les portes parce qu'on peut pas y aller. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé aussi, tous les deux, Thomas et Bouli?
Bah, moi, c'était d'abord d'incarner José Beauvais. Ouais. C'est quand même drôle, quand on t'appelle, on te dit tu vas incarner José Beauvais, tu dis oui tout de suite. Mm-hmm. Et puis après, nous, on n'a jamais fait, on voit rarement des films chez nous qui se passent au sein du Parlement et même des institutions européennes, alors que les Américains le font tout le temps.
Tout le temps.
Donc, on connaît même mieux les institutions américaines que les nôtres. Donc, et en fait, le Parlement, même si c'est absolument horrible, je trouve, au quotidien, mais visuellement, ça a de la gueule. Et dans le film, je trouve que le Parlement et de Strasbourg et de Bruxelles sont sexy. Mm-hmm. Pour une fois, l'Europe est sexy. est sexy.
Au niveau architectural, en tout cas.
Oui. Mais dans un film, c'est important.
Antoine Rimbaud, le film, hyper bien. C'est-à-dire que c'est extrêmement graphique la façon qu'il a de présenter le Parlement et la Commission européenne. Moi, ce que je trouve hyper cinématographique dans ce film, c'est cette histoire de José Bové qui se retrouve finalement à un peu prendre la défense de quelqu'un qui est son ennemi avéré depuis le début.
Ouais.
Et donc là, il y a quelque chose d'hyper épique dans cette histoire, de voir ce mec qui est un peu, donc José Bové, qui à la base lui n'est pas du tout prévu, lui il était à la Confédération Paysanne, c'est un gars, il n'est jamais prévu d'aller bosser à l'Europe, c'est sous l'impulsion d'Daniel Cohn-Bendit qu'il a été emmené là-bas, et il se retrouve, voilà, à faire des pas de côté, comme il aime à dire dans le film, c'est-à-dire qu'il n'est pas là vraiment pour faire, à la base, le but c'est pas de faire triompher la justice, il est juste là pour faire avancer le droit et la démocratie. Et il est là pour, et donc tout simplement en tirant cette ficelle de voir ce gars qui est son ennemi de la Commission européenne à la santé qui se fait virer, il a envie de comprendre ce qui cette anomalie qui est en train de se passer, et il se retrouve à prendre la défense de ce gars qui à la base avec qui il ne partage aucune des idées, quoi.
Ouais, voilà, et on viendra sur cette différence faite tout au long du film, et c'est un des clous sur lesquels le réalisateur Antoine Rimbaud tape, c'est cette différence essentielle entre la justice, on court tous après ça. On est habité par le sentiment d'injustice, notamment, et le droit, parce que c'est vrai qu'il faut un certain courage pour accepter que le droit va être respecté et non la justice. C'est chiant, c'est ce qui fait que le monde, des fois, c'est pas un super endroit où habiter.
Oui.
Éric Russon.
Oui, en plus, José Bové, il aime le tabac, il le dit.
Bien sûr.
Je me bats contre un type qui veut, voilà, et pourtant j'aime le tabac. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'institution. C'est une institution qui, de l'extérieur, mais je dirais pour tout citoyen, est extrêmement compliqué. Et on rentre dans la complexité à la fois de l'enquête que vous menez, que vos deux personnages mènent, parce que c'est une vraie enquête, à la Erin Brockovich et tout ça, quoi. Enfin, mais il y a aussi derrière ça toute la complexité d'un système opaque, j'ai l'impression.
Il y a trois systèmes. Il y a la Commission, il y a le Conseil, il y a le Parlement. Le Parlement n'est pas opaque. Le Parlement est très transparent. Ce qui est opaque, c'est la Commission et le Conseil. Ici, le Parlement, c'est l'outil qui permet de contrôler un peu ce qui se passe à la Commission et au Conseil. Donc, tout n'est pas opaque. Par contre, comme on ne s'intéresse jamais aux institutions européennes, parce que c'est vrai qu'on ne se dit pas, ce soir, on fait une soirée Europe. Ouais, cool.
Non.
Donc, on ne s'est pas intéressé, nous non plus, et c'est grâce au film qu'on s'est intéressé, parce qu'on n'avait pas le choix, qu'on s'est intéressé aux institutions européennes. Maintenant qu'on les comprend, on comprend la complexité du truc, tout n'est pas opaque, et qu'il y a effectivement un organe qui fonctionne, c'est le Parlement, où là sont nos élus. C'est absolument, et donc, il faut se plonger dans ce qui se passe à l'Europe, puisque 70% des lois qui vont être votées en Belgique, que ce soit régional ou communal, parce qu'on a tous cette année, les législatives, vont se faire d'abord à l'Europe. Donc c'est important de s'y intéresser. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Si tu rentres dans tous les détails, tu comprends plus rien. Mais en gros, c'est quand même pas très compliqué, quoi.
Alors, on fait des soirées Barbara, on pourrait faire des soirées Europe, finalement. Il y a quelque chose qui me touche dans le film, c'est toujours le sentiment de justice. On va expliquer les personnages. Il y a vous, Bouly Lanners, vous incarnez le personnage principal. C'est José Bové, c'est lui qui va mener un petit peu la danse, parce que c'est lui le chef, l'air de rien. Il a un assistant parlementaire, c'est vous, Thomas VDB. Et il faut parler aussi d'une jeune stagiaire qui est là. C'est une jeune juriste, en l'occurrence, qui va découvrir les arcanes, ce qui est très pratique, évidemment, parce que ça nous permet à nous qu'on nous explique aussi des choses en tant que spectateur. C'est Céleste Brunkel qui est vachement bien, je trouve, dans le film. Et elle arrive avec ce truc, on va faire la justice. Il faut que la justice soit faite. Et le droit va être fait. Mais il y a quand même quelque chose de chouette, c'est qu'il y a quand même un petit débat sur la colère. Moi, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et n'allez pas me dire qu'il ne vous intéresse pas, Bouly Lanners. Je vous ai vu en colère sur des réseaux sociaux depuis à peu près 25 ans. C'est un moteur. C'est un moteur pour cette jeune fille. C'est moins un moteur peut-être pour votre personnage, Thomas, qui lui est ingénieur agronome, si je me souviens bien. Mais pour José Bové, pour vous aussi, pour l'interpréter, est-ce que vous trouvez que la colère, c'est un bon moteur dans la société dans laquelle on vit, Bouly ?
Alors, je ne sais pas si c'est un bon moteur, mais c'est un bon starter. Après, une fois que le moteur a démarré, il y a autre chose qui doit nourrir le moteur. Et ici, José est aussi juriste, le vrai José Bové. Donc, lui connaît toute cette mécanique de réflexion sur les institutions, les lire des articles de loi, etc. Ce que moi, j'y ai pas. C'est pour ça que moi, je reste en colère. Je reste au premier stage. Je suis toujours au démarrage, moi. Ah, José, lui, est passé. Il a mis la troisième, la quatrième, la cinquième. Il est parti. C'est pour ça qu'on a moins, visiblement, dans le film, un homme en colère qu'un homme qui a été nourri par la colère pour en arriver à ce qu'il est. Mm-hmm. C'est ce qui a nourri José au départ. Au mm-hmm. départ, il était en colère et... parce que l'injustice est une forme de chose inacceptable pour lui, quoi. Mm-hmm. Pour moi.
On peut parler des chroniques hein, qu'on fait en radio, Thomas VDB. Mm-hmm. La colère, c'est un bon moteur aussi pour faire votre métier.
Pour faire de la comédie, je sais que la mauvaise humeur, la colère, c'est des choses qui sont toujours qui donnent un bon matériau de départ pour faire rire, en tout cas. Mm-hmm. Même si c'est le propos du film, là, en l'occurrence, c'est pas de faire rire, c'est pas une comédie. C'est un film léger, c'est un film où il y a de la légèreté dans les personnages qu'on incarne, parce que on n'est pas des parlementaires avec des cravates et tout. Enfin, José Bové, c'est quand même le gars qui refusait de mettre son badge quand il allait au Parlement européen, qui fumait la pipe dans le Parlement alors que c'était strictement interdit. Donc il y avait ce côté un peu.
Mais vous êtes beaucoup en Bermuda dans le film.
Ah mais faut pas y aller pour essayer de s'inspirer de mon look.
Si, allez-y pour enfin, ça fait partie vraiment du truc, du charme du film, c'est fortement chaud.
Ah, les looks vestimentaires. C'est vrai que je suis en Bermuda. Malte, vraiment, enfin, toute
mais
dignité
chaud,
était
normal,
mise de côté.
Ça a du sens.
Voilà. Bah, bien sûr. C'est pas des gars qui sont là pour faire les beaux, ça c'est sûr.
Non, ouais, vous dites quand même que ce sont des personnages légers, mais en même temps, c'est un film qui balance, quoi. Il balance les noms. Et il montre les photos à la fin dans le générique de fin. Donc, il y a quelque chose quand même de. On balance dans ce film.
Bah, on balance, c'est pas
Barroso
nous qui balançons
ça.
Bah oui,
bien sûr,
Barroso c'est... est un escroc, donc on le sait, maintenant c'est bien de le redire. Il a quand même passé directement de la commission chez Goldman Sachs, banque responsable du crash de Bursa 2008. Donc je veux dire, c'est pas un mec qui
a fait le John Daly en question, il en a souffert. Hein,
il en a souffert, et Kessler a pris un an avec sursis. Et là, il passe un appel là pour le
Marseille. Qui était président de l'OLAF. Hein.
L'OLAF, c'est un peu le FBI européen. Mmh. Voilà. Donc c'est comme si c'était le patron du FBI qui prenait un an avec sursis, qui repasse un appel pour le moment. Donc on balance. Mais en même temps, la justice a déjà fait son travail. Hein.
Non, là, c'est un film.
Donc... Ici, c'est un film. Voilà. Ils sont basés sur des éléments réels. On met les noms d'un truc qui a déjà été jugé. Mm-hmm. Donc,
vous faites de la radio, Thomas. Vous faites du one-man show aussi, hein, des spectacles. Il y en a 5, si ma mémoire est bonne. Je trouve que ça commence à dater. Il est temps d'en faire un autre.
Le dernier, j'ai joué la dernière date il y a 10 jours. Donc, donc voilà. Donc, non, faut me laisser le temps.
Et alors, on peut écrire un spectacle en 10 jours.
Oui, très bien, effectivement. Ouais, c'est dans mes projets, d'ailleurs.
Il y a dit.
Et ce métier d'acteur, hein, ça fait quand même un bout de temps hein, maintenant que vous y êtes aussi. Qu'est-ce que ça amène de plus ? Qu'est-ce que ça amène de plus ?
De faire du cinéma ?
Ouais.
Qu'est-ce que ça m'amène de plus ?
Parce qu'on peut pas être aussi libre que seul sur scène, c'est pas possible.
Ben non, parce que quand on fait du one-man show, ça permet d'interagir avec des gens. Parce que quand on fait un one man show, c'est bien, on s'amuse, on est le seul à être applaudi à la fin sur scène, donc c'est bon pour l'ego. Mais quelque part, si je prends pas la décision de faire une pièce de théâtre, ce qui est un truc que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, j'ai déjà fait du théâtre, mais disons que un film, c'est vraiment, c'est une autre chronologie. Quand on fait de la scène, on a une réponse immédiate du public. Quand on fait un film, bah là celui-là, on l'a tourné l'été dernier. Moi, je l'ai découvert il y a 2 semaines. Je l'ai vu il y a 2 semaines, le film seulement. Donc, tout ça est beaucoup plus long et tout. Mais c'est une autre esthétique. C'est quand même une autre. Le travail, c'est Antoine Rimbaud, le réalisateur, là, qui est avec nous, qui a passé, lui, depuis que le film a été tourné, eh ben, il a passé 4 mois dans une salle de montage. Donc, on est un ouvrier, en fait, qui prête son talent ou ce qu'il sait faire pour une histoire. Mais bon, c'est pas moi qui raconte toute l'histoire comme c'est le cas quand je suis sur une scène tout seul. Donc, c'est vraiment deux trucs complètement différents. Et puis un tournage, on est avec 50. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais on est avec 50 personnes, c'est une aventure géniale d'être en immersion totale avec 50 personnes pendant 2 mois. Ça, c'est vraiment fabuleux.
Vous, votre vie, c'est le cinéma, hein, Bouli, depuis très longtemps. Maintenant, vous découvrez la scène d'une manière un petit peu particulière, hein, au théâtre de la couverture chauffante, puisque vous avez repris ce théâtre de marionnettes hein, que vous avez relancé dans cette jolie ville de Liège, principauté.
Les plus belles villes du monde, paraît-il.
Une des plus, paraît-il. J'ai vu les photos. Sur photo, on dirait pas, mais quand on y va. Maintenant qu'il y a le tram, c'est très
maintenant
joli.
Maintenant qu'il y a le tram, ça va pas. Attends, encore un peu. Hein,
Et que les travaux sont toujours par bouche.
Maintenant qu'il y a les travaux du tram,
Est-ce que ça vous a déjà tenté, comme Benoît Poulevard l'a fait d'ailleurs, après c'est arrivé près de chez vous avec Modèle Déposé, etc., de monter seul sur scène ? Parce que on peut pas dire que vous ayez rien à dire.
Ah non, mais il pourra en faire 5 des spectacles.
Pourquoi vous le faites pas ?
Parce que j'ai peur. Non, j'ai fait un tout petit peu de scène, parce que Élise, mon épouse, est metteur en scène au théâtre, donc elle m'a mis en scène dans 2-3 trucs, mais ça a été chaque fois l'enfer. Donc maintenant, peut-être qu'avec l'âge, ça irait mieux, mais je me rappelle d'avoir...
Mais ça vous chipote pas ?
Si, ça me chipote un peu. Mais je me rappelle toujours de ce moment où j'ai fait la lecture au Festival de l'Intime à Namur, où j'ouvrais le festival dans la grande salle, Et j'étais tout seul. Et je me dis, c'est ce que Thomas vit tous les soirs. J'étais tout seul avec un régisseur. Faut imaginer quand même ce moment-là. Ouais. On sait qu'il y a une salle à 800 personnes. Là, en plus, c'est une salle un peu italienne avec des balcons et tout. Et je me rappelle, le mec a dit, c'est comme les gars qu'on va chercher dans la cellule avant de se faire décapiter. C'est maintenant. Ouais. Il met un sur mon épaule, il dit c'est maintenant.
Je pars. Mais si tu le disais avec ce ton-là, je comprends.
C'est un peu inquiétant. Il m'a dit avec ce ton-là, moi je voyais le pullover rouge, quoi. Je me dis c'est maintenant. Donc j'arrive et puis on ouvre la porte et tu vois rien et je vois la table avec un verre d'eau et le bouquin que je dois lire. Ouais, c'était un des pires moments de ma vie, quoi.
Ah ouais.
Mais après, ton dernier repas.
Ce moment-là, après quand j'ai commencé à lire, c'était super. Mais ce moment-là est resté.
Est effrayant.
Ben dans la balance, c'est celui-là que j'ai retenu.
Oui, mais ça, c'est l'être humain.
Mais c'est peut-être qu'avec l'âge, un jour, j'y arriverai. Ouais.
En même temps, c'est vrai, Benoît Poulevard l'a fait, mais une fois.
Une fois.
Et il ne l'a plus refait depuis.
Parce qu'il a un mec dans qui lui dit rock.
C'est maintenant.
C'est maintenant. Voilà.
Ouais, c'est ça. On va le retenir, le fameux.
Le tout, c'est de trouver le bon régisseur qui fait « Eh, on y va, mon gars !»
Mais oui, c'est ça.
Pas celui qui parle vraiment « C'est maintenant !»
On en connaît. Sébastien.
Je reviens à ce que vous disiez, Bouli, quand au début de l'interview, vous disiez « Oui, quand on vous appelle pour jouer José Bové, vous dites « Oui » tout de suite. » C'est quoi qu'est-ce qui représente pour vous ce José Bové dans votre trajectoire, dans votre paysage? Chez qui? C'est quoi? Pourquoi? Ben,
José Bové, il a été fondateur de mon militantisme et de mon activisme. C'est quelqu'un que j'ai toujours suivi par ses coups, ses actions. Ben, il nous a fait découvrir quand même les OGM, il nous a fait découvrir quand même plein de trucs.
Ouais, et puis l'Arzac, sur l'intermondialisme à l'époque.
Oui, et puis franchement, le combat sur l'Arzac, faut l'avoir les couilles quand même. C'était comme se battre contre l'armée.
Le monsieur a démonté un McDo.
Ouais, il l'a pas saccagé, il a démonté, il a jamais arraché du machin, et tout avec toujours un principe de non-violence mis en avant. Mmh. Donc, incarner quelqu'un qu'on aime, c'est super, parce que c'est beaucoup plus excitant. Mais on a peur de le trahir, parce qu'on l'aime.
Ouais.
Incarner quelqu'un qu'on déteste, en même temps, c'est moins excitant, mais on s'en fout, on peut le trahir. On peut aller chercher chez cette personne ce qu'elle a de pire, parce qu'on peut gommer la réalité. Imaginons, par exemple, que... Non, je peux pas dire.
Non, pas non.
RTB, Jean-Pierre Jacques nous écoute. Non, je peux pas dire des mots.
Mais ça, va.
Non.
En plus, c'est pas si sûr, Bouli. C'est
non,
pas
peut-être
si
qu'il
sûr.
Écoute RTL.
Exactement. Faut toujours écouter la concurrence.
Toujours
pour voir si ce qu'on fait. Juste.
Absolument. Ouais. Non, voilà. Donc,
exemple, vous auriez joué Barroso.
Moi, j'ai dû faire un truc dans une ancienne équipe.
J'aurais pu y aller à fond
en
jouant Barroso parce qu'en plus, la trajectoire de ce mec, elle est insensée. C'était un maoïste au départ. Il est passé de ça à la commission, puis terminé chez Goldman Sachs. Donc, aucune déontologie.
Et qu'est-ce qu'il a dit, José Bové?
Et Barroso, par exemple, est peut-être très gentil avec les chiens. Et tu vois, il adore peut-être les animaux, mais du coup, si je devais incarner Barroso, c'est pas ça que je mettrais en exergue. Tu vois,
ouais, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous a dit José Bové après avoir vu le film?
Il m'a dit, José, il est là.
Oui, on aurait vraiment aimé l'avoir sur antenne,
on est tout le temps ensemble. Oui, je sais. On marche sur des œufs, hein, tout le temps. C'est terrible, cette société.
Et qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien?
Il a dit que c'est bien, oui, il est très content. Mais José, là, il refait un parcours de tribun, là. Ils font toute la France.
Son biopic.
Antoine. Non, c'est pas un biopic.
C'est pas un biopic. Non,
pas du tout, c'est pas du tout.
Non, rigole. Loin de la même.
Par contre, c'est important de souligner ce qui se passe. Et je veux dire, quand même, ce Dalligate fait quand même écho au Dieselgate, au Qatargate, au Russiegate. C'est-à-dire, il y en a quand même des gates. Hein,
parce qu'en fait, le vrai sujet du film, et c'est ça qui est absolument terrible, c'est évidemment l'hyper-présence des lobbies. Ouais. Bruxelles est une des villes dans lesquelles il y a le plus de lobbies au monde.
Bah, ça
s'explique évidemment par la présence de la Commission et du Conseil.
Ouais. On le connaît.
Il
y a 80, plus ou moins 80 lobbyistes par parlementaire. Il y a plus de 700 parlementaires. Donc imagine le nombre de gens.
Ouais.
Mais attention, José, il y a deux sortes de lobbies. Il y a le lobby qui travaille, le vrai lobby, qui est un lobby qui travaille pour les sociétés, donc pour le lucre, pour une société privée. Et puis il y a les ONG qui travaille pour la société civile. Ça, c'est pas... Alors que c'est considéré comme lobbyiste aussi, c'est pas du lobbying.
Voilà. Et c'est d'ailleurs la présence des uns qui explique la présence des autres. Parce que si, aujourd'hui, il y a des lobbyistes pourris qui travaillent pour des sociétés pourries à Bruxelles, c'est parce que le lobbyisme est autorisé, parce qu'il y a plein de lobbies qui travaillent pour des ONG qui vont défendre des gens aux quatre coins du monde, et notamment s'assurer que les droits de l'homme, par exemple, qui est plutôt une belle valeur, sont... Ça vous questionne, vous, Thomas, cette hyper-présence du lobby, on se rappelle très bien en France aussi, de la présence de lobbyistes au sein même de l'Élysée, hein, par exemple, dans des réunions. C'est quand même quelque chose qui questionne, quoi.
Ben oui, disons que c'est la preuve que dans les arcanes du pouvoir, il se passe des jeux d'influence qui nous échappent complètement. Et alors voilà, des fois c'est pour la bonne cause, des fois c'est pour la mauvaise, mais il y a quand même beaucoup de lobbies qui travaillent pour des causes pour l'automobile, pour le. Alors on me disait que pour le tabac, apparemment, les lobbies s'interdisent de travailler pour le tabac, il paraît, parce que c'est vraiment un truc. Il paraît que c'est leur méthode qui sont. Je parlais avec quelqu'un du Parlement européen tout à l'heure qui me disait ça. Bon, c'est pas ce que raconte exactement le film, mais bon. Oui, ça peut être. C'est bien que ça existe, mais bon, c'est quand même le métier. C'est dans lequel c'est pas dur d'imaginer que c'est un métier où il existe beaucoup de gens assez sournois.
Oui.
Quand même, hein. ça évoque un truc l'univers de la sournoiserie quand même aussi.
C'est une forme de sournoiserie. Vous, c'est quelque chose qui vous a étonné, par exemple, de découvrir le chiffre. C'est quoi? C'est 80 lobbyistes pour un parlementaire.
Ouais, et pas les mêmes. Hein. Donc chaque parlementaire a 80 lobbyistes à lui. Donc ça fait vraiment 701 fois 80.
Il y en a peut-être dans ce studio.
Mais ça vous surprend.
On ne sait pas.
Statistiquement, il y aurait un lobbyiste dans ce studio.
Je l'ai repéré. Il ne dit rien, regarde. Il rougit.
Je suis sournois.
C'est russe.
Sais que les lobbyistes sont présents partout. Parce que même quand je prends par exemple la politique énergétique belge, ce n'est pas les quatre ministres de l'énergie qui décident. C'est Engie Electrabel qui décide de la politique énergétique belge. Et dans tous les cabinets ministériels, dont celui de Mariem, il y avait des gars de Engie Electrabel.
Tu n'as pas cité de nom.
J'ai pas cité de nom, j'ai juste dit Engie Electrabel. Et je dis Mariem. Ça va, non, ça va, pardon.
Ouais. Et pendant c'est difficile, hein, de faire des émissions en prudence électorale. Vraiment, c'est difficile. Je prendrai congé. Ouais.
Pendant le Covid, les lobbies pharmaceutiques ont été très actifs. Il faut le rappeler aussi.
Ne le lance pas, toi.
Pardon.
C'est vrai. Désolé. C'est vrai, ça fait pas. C'est la même réflexion que le film.
Mais bien sûr, on est là pour parler de ça aussi.
Et le retour de Chantal Goya dans tout ça.
Eh bien, nous n'en parlerons pas.
Ça m'a un peu échappé.
Sébastien Ministru. Le film, il sort le 8 mai. Donc, si vous voulez voir, Bouly Lanner s'interpréter José Bové au cœur de l'action, dans le Parlement européen. Ce qui est très beau, c'est que José Bové se bat contre un ennemi politique. Ça me plaît beaucoup quand même, ce genre d'élégance dans le monde aujourd'hui. Tout ça pour que le droit soit respecté dans la Commission européenne, ce qui est évidemment une règle sine qua non pour que la Commission fonctionne, le Conseil fonctionne et le Parlement également. Merci Thomas VDB.
Merci à vous.
J'aime beaucoup ce que vous faites en radio et sur
scène. C'est gentil ça.
Donc, je tenais à vous le dire.
Merci.
Vaut mieux ça que sale con, par exemple.
Par exemple, ouais.
Je trouve. Donc félicitations à vous, je vous aime beaucoup. Cool. Merci Bouly.
Oui, Bouly sale con.
Je vous aime. Je savais depuis tout ce temps. Le film s'appelle Une affaire de principe. Attention, il sort le 8 mai, donc on s'en souviendra. Et de toute façon, on en reparlera dans cette émission. Éric et Sébastien, vous restez ?
Oui, bien sûr.
Oui, oui.
Je suis bien content, j'aime pas d'être tout seul.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
12h43 minutes. Que le temps file dans cette émission. On va encore parler cinéma, mais avec vous, c'est Éric Russon maintenant. Trois sorties ciné, quatre sorties ciné, et puis une sortie plateforme événement. Le premier film, c'est Rosalie de Stéphanie Di Giusto.
Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite.
Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux.
C'est ça ta dot. Et le reste?
J'ai besoin encore un peu de temps.
Quel temps? Il n'y en a plus du temps.
J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi, vous soyez comme les autres.
Gros casting pour ce film français.
Et Stéphanie Di Giusto est une ex-clipeuse qui a réalisé un premier long en 2016 qui s'appelait La Danseuse, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Soko et Lily Rose Depp. Le film est interprété, vous l'avez dit tout à l'heure, par Nadia Tereshkiewicz, qui on a vu dans Les Amandiers, dans Mon Crime, Benoît Magimel, Benjamin Biolay et Guillaume Gouix. Nous sommes dans la France de l'après-guerre de 1870, dans une petite ville dominée par une grosse entreprise de blanchisserie qui emploie la quasi-totalité de la population. Abel, Magimel tient le café du coin, c'est un blessé de guerre, il a une énorme dette envers le patron de l'usine, Benjamin Biolay, qui est aussi un petit peu le seigneur du coin. Il va épouser une très jeune femme pour sa dot, pour pouvoir rembourser évidemment une partie de sa dette. Elle s'appelle Rosalie, elle est plutôt jolie, mais la jeune femme prie pour qu'il l'accepte telle qu'elle l'est. Et on se demande bien ce qu'elle a. Ce qu'Abel va découvrir évidemment pendant la nuit de noces, c'est que Rosalie a une pilosité anormalement abondante.
Oh.
Avec l'un des clients du café, la jeune femme fait un pari et se présente un jour avec sa barbe. Les clients vont affluer, évidemment, mais le patron de l'usine voit d'un mauvais œil que les ouvriers passent de plus en plus de temps dans le café d'Abel. Eh ben, Rosalie est basée sur une histoire vraie.
Ah oui ?
Celle de Clémentine Delay, qui souffrait d'hypertrichose, un dérèglement hormonal qui favorise en effet un développement excessif des poils. Bref, c'était une femme à barbe, mais qui s'assumait complètement et tenait un café dans les Vosges. Le parallèle s'arrête là, ce n'est pas un biopic. Rosalie s'inspire de ce personnage pour raconter quelque chose de très contemporain, évidemment. Évidemment, c'est pas seulement un film sur la différence, mais surtout sur une féminité qui s'assume complètement. Rosalie et poilu, mais sa différence résonne de la même manière que s'il avait souffert d'un surpoids ou de toute autre caractéristique physique qui ne correspondent pas au canon de beauté, évidemment. Ce qui est intelligent dans ce film, c'est qu'en tant que spectateur, on réagit de la même manière au fait que les personnages du... village. On est un peu perturbé évidemment par le visage de cette comédienne ornée d'une barbe que moi je serais incapable d'avoir. Elle a une très très belle barbe. Hein. Et puis on s'y fait au point de trouver ça beau finalement parce que c'est ce que dégage le personnage de l'intérieur. C'est un très beau film, touchant sans tomber dans le drame à la française et c'est un de mes deux coups de cœur de cette semaine.
Allez, Rosalie avec Benoît Magimel, avec Nadia Tereskiewicz qui est vraiment ça va exploser hein, cette histoire. Elle est formidable.
Et avec les billets, avec père et fille, la fille de...
Ah oui, ouais, aussi. Ouais. Eh bien voilà, ça s'appelle Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Autre film qui a un autre coup de cœur pour vous, il me semble.
Autre genre, hein. Ça s'appelle Civil War.
Civil War.
Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat.
C'est quoi sur la guerre civile américaine?
C'est un film de Alex Garland, c'est un romancier, c'est le gars qui avait écrit La plage dont s'était inspiré Danny Boyle pour son film. C'est aussi un scénariste, réalisateur aussi britannique, il a réalisé Annihilation avec Natalie Portman, c'était en 2018. Le film ici est interprété par Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman et Kylie Spaney. Ça raconte quoi? Ça raconte les États-Unis en effet qui sont ravagés par une guerre civile opposant les unionistes aux sécessionnistes, les vrais Américains aux autres. Sniper, charnier, rien ne manque à la définition du chaos. Lee, interprété par Kirsten Dunst, est photographe de guerre. Elle a couvert de nombreux conflits à travers le monde. On le voit dans ses flashbacks. Et aujourd'hui, c'est dans son pays qu'elle fait des images de guérilla urbaine avec son coéquipier, une débutante dont elle est le modèle, et un vieux photographe à quatre. Ils vont se rendre à Washington pour interviewer le président. Il n'y a que 1000 kilomètres à faire. Mais quels 1000 kilomètres, évidemment, puisqu'au cours de le voyage, ils vont tout voir. Hein, des pillages, des couvre-feux, des scènes de destruction, des villes fantômes, et j'en passe.
Mais ça se passe quand?
Ça se passe dans un futur proche. Dystopie. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Alex Garland signe une dystopie dans une Amérique qui fait à la fois penser à Margaret Atwood et à Donald Trump. Allons-y. Atwood parce que le début de Sa servante écarlate décrit la guerre civile qui va aboutir à la société que décrit son roman. Donald Trump parce que certaines scènes de Civil War évoquent évidemment les images de l'attaque du Capitole par le soutien du président américain de l'ex et on n'espère pas futur, en janvier 2021. Et ça fait froid, vraiment froid dans le dos, surtout à l'approche des élections américaines. Son film résonne comme un avertissement, mais Garland tente aussi de comprendre les motivations de ces chasseurs d'images qui vont au front pour prendre une bonne photo, entre guillemets. C'est le cas du personnage joué par Kirsten Dunst, qui a croisé l'horreur dans de nombreux pays en guerre, qui semble blindé, mais dont le vernis craque une fois qu'elle tente de capturer l'horreur de ce qui ravage son pays dans son viseur. Civil War est un film construit comme un thriller de guerre, réaliste, ça marche. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et surtout beaucoup de craintes pour l'avenir de ce pays.
Oh là là,
c'est très bien.
Donc, c'est bien alors, hein.
Ah ouais, c'est passionnant.
C'est carrément bien. Civil War, donc, de Alex Garland, deuxième coup de cœur pour cette semaine. Autre film, dites donc, les films italiens reviennent à l'affiche. Ouais. On en voit sortir tous les mois. Il y en a un ou deux, hein, après C'è ancora domani, qui est quand même un immense succès. Il y a L'ordine del tempo de Liliana Cavani.
È un asteroide interstellare che dopo aver vagato per milioni di anni per la Via Lattea ha incontrato casualmente il sistema solare.
Quanto è grande sto coso?
Voilà, on rappelle quand même que Liliana Cavani, c'est la réalisatrice de Portier de nuit avec Charlotte Rampling, de La peau, Il pelle, d'après Moravia. Alors le film était interprété ici par Alessandro Gassman, le fils de l'autre, Claudia Gerini, Angela Molina et un certain Fabrizio Rongio.
Et oui,
c'est l'histoire d'un groupe d'amis, Cadra, Quinca, qui se réunissent pour fêter l'anniversaire d'Elsa. Elle fête ses 50 ans dans sa belle et grande maison au bord de la mer, qui peut loger tout le monde. Mais l'annonce d'une possible collision avec un astéroïde qui s'approche de la Terre change la donne, évidemment. Ils vivent donc peut-être leurs dernières heures, ce qui va libérer la parole. Ils vont exprimer leurs inquiétudes, révéler leurs véritables sentiments, tenter de résoudre certains conflits ou renouer des liens avant la fin. Bref, un peu plus de sincérité que d'habitude dans ce groupe d'amis qui ne manquent de rien et ont tous des boulots relativement lucratif. Alors, L'Ordine del Tempo est adapté en fait d'un essai écrit par le physicien Carlo Rovelli. Un des personnages est d'ailleurs physicien, lui en personnage. Le résultat, ben, c'est un petit peu les petits mouchoirs mélangés à Armageddon. Dans ce film,
le petit Armageddon.
Oui, c'est ça. Dans ce film, Liliana Cavani tente de cerner les préoccupations d'une génération, faire une sorte de bilan, mais malheureusement n'aligne que des poncifs sans jamais aborder de questions politiques ou sociales, ce qui était son fort quand même. Alors qu'il y a de quoi, notamment à travers le personnage à la bonne à tout faire de la maison, qui sert tout le monde, s'inquiète de ne pas pouvoir revoir son fils resté au pays alors qu'il y a peut-être une catastrophe en train de leur tomber sur le coin de la gueule. À aucun moment, Cavani ne réussit à nous rendre ces personnages sympathiques. Finalement, ce sont des bourges avec des petits problèmes de bourges qui finissent par faire une ronde devant un clip de Leonard Cohen en attendant une mort éventuelle. Et là, on frise vraiment le ridicule. Où est donc passée la Liliana Cavani de Portier de Nuit? Je vous le demande.
Le temps. C'est le temps qui a fait son affaire.
Je ne sais pas ce qui s'est passé.
L'Ordine del Tempo.
Clairement pas un coup de cœur.
Oh, dommage.
Un petit...
Je ne veux pas voir la ronde avec Leonard Cohen.
Non, excusez-moi.
Ça ne donne pas envie. Un petit mot sur un autre film.
Ouais, Abigail.
Joey.
Yeah.
I'm sorry about what's going to happen to you.
C'est le bif, hein, vous le savez, à Bruxelles. Le cinéma suit, les cinémas suivent et les distributeurs aussi. Donc il y a quelques films d'horreur. Il y a Night Swim dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis Abigail, petit film d'horreur bien sanguinolent. Une bonne série B avec humour et outrance. Avec feu Angus Gold, le comédien de la série Euphoria qui est décédé l'an dernier. Je résume très rapidement, c'est l'histoire d'une bande de malfrats qui enlève une petite fille, une petite danseuse, fille d'un type très riche. En attendant que la rançon ne soit versée, ils se rendent compte que la petite fille est... Non, je vous le dis pas.
Non, mais ça va pas, non?
Non, je vous le dis pas. En tout cas, elle n'est pas ce qu'on croit. Et donc,
elle est maléfique.
D'un film de gangster, ça devient un petit peu un film de vampire. Et c'est très réjouissant.
Il fallait pas l'enlever, quoi. Ouais, c'était pas elle qu'il fallait enlever.
Il fallait prendre une autre.
Mais Abigail. Voilà, ça s'appelle Abigail. Et voilà, c'est une bonne série B réjouissante.
Et c'est marrant?
Aussi. Ah oui, on rit aussi, on rit de l'outrance.
C'est important.
Il y a beaucoup de sang.
On passe aux plateformes maintenant, avec un événement, Eric.
Oui, un événement que plein de gens qui aiment le jeu vidéo attendent, ça s'appelle Fallout.
You need to go home. Vault dwellers are an endangered species. I do not think you would be willing to do what it takes.
C'est sur Prime Video, c'est en 8 épisodes, c'est une série créée et réalisée entre autres par Jonathan Nolan, le frère de Christopher, avec qui il avait écrit pas mal de films. Hein. C'est avec Kyle MacLachlan qu'on a du plaisir à retrouver, Ella Purnell, Aaron Motten ou Walton Goggins. Alors on est dans un monde rétro-futuriste, j'explique. Dans les années 50, une guerre nucléaire a éclaté qui a détruit sinon la planète, au moins les États-Unis. Bref, la guerre froide s'est réchauffée. 200 et quelques années plus tard, trois personnages vont se croiser avec des objectifs plus ou moins communs. Il y a Lucy McLean, qui a passé toute sa vie dans un abri, abri 33, et qui va découvrir la réalité de la surface pour retrouver son père. Il y a Maximus, jeune soldat, qui va devenir une espèce de Robocop. Et puis il y a aussi la Ghoul, ancien acteur de western dans les années 50, qui est devenu une sorte de zombie chasseur de primes. Mmh. Fallout se laisse plutôt regarder sans déplaisir. Ce qui fonctionne, c'est le décalage entre les époques, puisque tout le monde, enfin le monde tel qu'on le connaît a disparu dans les années 50. Ben, toute la BO, mais toute la charte graphique, les vêtements et tout ça, c'est dans les années 50 qu'ils vont... qui vont les chercher, costumes, pubs, etc. Nous ne sommes donc pas dans un récit de science-fiction réaliste, c'est pas d'une du tout.
Et c'est adapté d'un jeu vidéo. Hein.
C'est adapté d'un jeu vidéo. Et là, voilà, je suis pas du tout jeu vidéo. Là où The Last of Us, également adapté d'un jeu vidéo, était passionnant et flippant, je suis rentré moins facilement dans celui-ci. Mais je sais que les fans, et il y en a beaucoup, des millions dans le monde de ce jeu, vont sans doute se reconnaître dans tous ces personnages. Je vous dis, j'ai regardé
donc
ça.
Donc c'est un plaisir quand même, Fallout.
J'ai gardé un plaisir de spectateur, mais je n'ai pas vibré autant que dans The Last of Us, qui était vraiment formidable et qui se décalait par rapport aux jeux vidéo avec des épisodes qui étaient absolument des films. C'était un chef-d'œuvre. Alors voilà, ça s'appelle Fallout. Je pense que c'est pour ceux qui aiment le jeu vidéo. C'est agréable à regarder, mais sans plus.
Voilà, merci Eric Russon. Merci Sébastien Ministre.
Avec plaisir.
Merci Eric Russon.
Mais c'était un plaisir.
Merci à Evian, Marianne Baupin. Merci à vous d'avoir écouté, entré sans frapper. Le journal, c'est Olivier Nederland.
La première.
L'esprit clair.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.